Bonjour. Nous sommes déjà salués pour la plupart, mais je dis bonjour à tout le monde en même temps. J'ai choisi ce thème-là cet après-midi parce que l'homme selon le cœur de Dieu, ou pour reprendre une expression que l'on trouve dans une traduction plus récente, la traduction qui s'appelle Parole de vie, qui est, je dirais, plus facile à lire encore, bien que j'étudie la langue française depuis bientôt 57 ans. Enfin non, les trois premières années, j'étudiais pas trop. Mais vous savez, quand on est dans un pays, on apprend la langue toute sa vie. Je trouve quand même que cette traduction de la Bible est plus facile à lire, plus moderne surtout. Et dans le texte d'Actes 13, 22, que nous venons de lire à l'instant, parlant de David, Dieu dit « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, c'est un homme qui me plaît. » Alors on aurait pu traduire, j'aurais pu intituler ce sermon, non pas « L'homme selon le cœur de Dieu », mais « L'homme qui plaît à Dieu », ce qui est peut-être plus simple à comprendre, plus direct. Dans ce texte et dans cette méditation aujourd'hui, peut-être nous continuerons, puisque je dois revenir, je crois, en mai et en juin, donc j'ai pensé peut-être faire une suite en trois parties, un message en trois parties. J'aimerais donc parler de l'homme qui plaît à Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Cette expression, elle est unique dans la Bible. La Bible emploie cette expression une seule fois, et c'est en parlant de David. Bien sûr, il y a dans toute la Bible d'autres gens qui ont plu à Dieu. Dans le livre des Hébreux, je crois dans l'Épître aux Hébreux, il est dit dans un certain texte que Noé était aussi un homme qui plut à Dieu. Et nous allons voir tout à l'heure en conclusion qu'il y a entre ces deux hommes un point commun, parce que le but de cette série de méditations, donc de ces trois méditations, ce sera de découvrir quelles sont les caractéristiques principales de l'homme que Dieu a appelé l'homme qui me plaît. Vous savez que l'un des buts du chrétien, si ce n'est le but principal, c'est de vivre d'une manière qui plaise à Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Savoir que nous plaisons à Dieu est plus important, d'après la Bible, que de savoir que nous plaisons aux hommes. D'ailleurs, dans le texte qui a été lu au début, ce texte fait suite au rejet. Et c'est ce qui est dit dans Actes 13, 22. Dieu a rejeté quelqu'un, le roi Saül, et ensuite, il a choisi quelqu'un d'autre. Tout en rappelant, il est important de rappeler que quand Dieu a rejeté Saül et qu'il a choisi David pour lui succéder, Dieu a cependant attendu un moment. Peut-être, on peut imaginer, enfin on peut déduire de la lecture de la Bible, qu'il s'est écoulé un certain nombre d'années entre le moment où Dieu a choisi David et le jour où David a vraiment régné. Peut-être qu'il s'est écoulé une quinzaine d'années, ou tout au moins une dizaine d'années. Ce qui nous montre que quand Dieu prend des décisions, il est le maître du temps, et il peut appeler un homme, ou une femme, je ne sais pas, et il peut appeler quelqu'un, et cependant, il attendra encore du temps avant que cette personne soit prête. Nous voyons souvent cela dans la Bible. Dieu, par exemple, met dans le cœur de Moïse le désir de servir Israël, mais entre le moment où Dieu met cela dans le cœur de Moïse, il va s'écouler 40 ans avant que Moïse ne commence à prendre en main le destin d'Israël avec l'aide de Dieu. Donc, Saül était un roi qui par contre n'a pas plu à Dieu. Et pour résumer, parce que nous n'avons quand même pas beaucoup de temps, pour entrer dans tous les détails, c'est une longue histoire, l'histoire de David prend plusieurs dizaines de chapitres de la Bible, mais pour résumer, aller à l'essentiel tout de suite, disons simplement, Saül avait été aussi choisi par Dieu, il avait été revêtu du Saint-Esprit, comme dit la Bible, mais il a choisi de vivre pour lui-même, pour son propre prestige, parce que nous voyons un certain jour que même en se repentant, Saül voulait bien se repentir et regretter ses péchés, mais il voulait en même temps qu'on l'honore. Vous savez, quand on se repent, on ne demande pas à être honoré. La repentance n'a rien à voir avec l'honneur personnel. Pendant toute sa vie et tout son règne, Saül a vécu pour lui-même, et c'est cela qui n'a pas plu à Dieu. Ainsi donc, le prophète Samuel, nous avons lu cela dans 1 Samuel chapitre 15, a été envoyé dans la maison d'un homme qui habitait à Bethléem, qui s'appelait Isaïe. Cet homme avait 8 fils. Vous avez vu comment tout à l'heure le prophète Samuel est venu pour choisir, pour oindre d'huile, parce que en ce temps-là, quand Dieu choisissait quelqu'un pour une tâche particulière, cet homme devait être oint d'huile. On versait de l'huile sur sa tête pour montrer officiellement qu'il correspondait au choix de Dieu, soit pour être roi, soit pour être prophète, soit pour être prêtre dans le tabernacle ou dans le temple. Ainsi donc, Samuel arrive dans la maison du père de David, et David, le père de David, a 8 fils. David, c'est le petit dernier. Les 7 aînés sont dans la maison, et nous avons vu que lorsque Samuel a vu ses garçons arriver, et qu'il a vu en particulier le premier, il a remarqué que le premier, l'aîné, ce qui était assez logique peut-être, enfin, dans une certaine logique, l'aîné, qui s'appelait Éliab, était grand et beau. Vous allez me dire, pour un futur roi, être grand, donc on peut supposer même fort, robuste et beau, hein, c'est pas indispensable d'être beau, mais peut-être d'être fort. Enfin, en ce temps-là, les rois conduisaient leurs armées à la guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait pareil quand il y a des rois. Mais les rois conduisant leur armée à la guerre, comme nous le verrons peut-être la prochaine fois dans le chapitre suivant, il valait mieux que le roi soit fort, qu'il soit grand. Et vous savez, le prophète Samuel probablement pensait cela parce que quand Dieu l'avait envoyé pour choisir Saül, le premier roi, Saül était un homme grand. Et la Bible dit, il dépassait tout le monde d'une tête. Alors une tête, ça fait à peu près combien? 20 cm, je ne sais pas. Un peu plus de 20 cm, ça dépend des têtes, bien sûr. Mais en principe, alors 20 cm de plus que tout le monde, cela suppose que Saül faisait peut-être 2 mètres de haut. C'était une bonne taille. Et alors je pense que le prophète Samuel a dû se dire, quand Dieu choisit un homme pour être roi, il choisit quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, quelqu'un de beau. Mais Samuel avait oublié une chose, c'est que Dieu est, dans une certaine mesure, original. Il crée des choses nouvelles. Il aime bien changer. Ça ne veut pas dire que Dieu change d'avis, mais Dieu change parfois de méthode. Dieu ne choisit pas toujours des gens qui ont le même profil. Nous le voyons dans toute la Bible. Parfois Dieu choisit des gens instruits, et parfois il choisit des gens qui ne sont pas instruits. Parfois, il choisit des gens qui ont un certain âge. Moïse, par exemple, avait 40 ans quand il a été choisi par Dieu. Mais Dieu choisit aussi des jeunes. Le roi David a été choisi, il avait peut-être 15 ans. Le prophète Jérémie a été choisi, appelé par Dieu, alors qu'il était encore qu'un enfant. Puisque quand Dieu l'appelle, Jérémie répond, « Seigneur, mais je suis un enfant. Je ne suis qu'un enfant. » C'est-à-dire de dire, « Je suis tout petit, Seigneur, je ne peux rien faire pour toi. » Alors, Samuel est donc dans la maison de David, la maison des parents de David, et il voit arriver ce grand frère et il se dit, c'est lui que Dieu a choisi. Parce que Samuel visiblement ne savait pas qui il allait oindre d'huile. Et puis le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, ce n'est pas lui, c'est pas lui que j'ai choisi. Et il lui a dit un message très important, il lui a dit ce jour-là, l'homme regarde à l'apparence, en général, mais Dieu, moi Dieu, dit Dieu à Samuel, je regarde au cœur, je regarde au fond du cœur. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas que l'on mesure 2 mètres, ou même plus, ce n'est pas qu'on pèse 100 kilos, ou un peu plus, ce n'est pas qu'on ait tous les diplômes de la terre, ce n'est pas qu'on soit très beau. Ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est pour cela que lorsque Dieu a dit ça à Samuel, Samuel a dit, bon, si ce n'est pas le plus grand, ce sera peut-être le deuxième. Puis le deuxième est arrivé, Abinadab, je crois il s'appelait, Abinadab, et Dieu lui a dit, non, ce n'est pas lui non plus. Et la Bible dit, les 5 autres frères, du troisième au septième, ont défilé devant Samuel, Et à chaque fois, Dieu lui a dit, ce n'est pas lui. Alors, Samuel s'est dit, mais Dieu ne se trompe pas, il m'a envoyé pour oindre l'un des fils de Jessé. Donc, il doit bien y avoir un autre fils. Alors, il a demandé à Jessé, le papa, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre? Est-ce que ceux-là sont tous tes fils? Il n'y en a pas d'autre? Et le père a répondu, si, il y en a encore un. Mais c'est un petit. C'est un jeune, c'est le plus jeune, c'est le petit Benjamin. Et Samuel, sachant que Dieu avait choisi l'un des fils de Jessé, a dit, appelle-le, parce que je dois voir tous les fils. Et lorsque ce petit dernier, qui paraît-il était lui aussi assez beau, c'est ce que dit la Bible. Bon, ils étaient peut-être tous beaux d'ailleurs, mais ce n'était pas ça l'essentiel. Lorsque ce petit garçon est arrivé, il paraît qu'il était blond ou roux, qu'il était différent des autres, qui étaient tous bruns. Et peu importe, parce que cela non plus, ce n'est pas un critère de sélection pour Dieu. Lorsque ce petit dernier est arrivé, la Bible dit, Dieu dit à Samuel, c'est lui. Vous imaginez la surprise de Samuel. Samuel a compris ce jour-là que, quelle que soit notre apparence, ce qui compte, c'est notre cœur. Et si notre cœur fonctionne d'une manière qui plaît à Dieu, si nous recherchons toujours à plaire à Dieu, alors nous faisons l'affaire pour Dieu. Nous faisons l'affaire. L'appel de David a été un événement extraordinaire pour lui. La Bible dit, nous avons lu ce texte, que lorsque David a été oint d'huile par Samuel, le Saint-Esprit s'est emparé de lui ce jour-là et dans la suite. Dans la Bible dont je parlais il y a un instant, la Bible Parole de Vie, il y a une autre expression, je crois, qui est utilisée. Et cette expression, attendez, je trouve le texte, cette expression est un peu différente. Dans 1 Samuel 16, si on cherche dans 2 Samuel, c'est pas ça. 1 Samuel 16, il est dit, l'Esprit du Seigneur descend sur David, et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Il s'est donc passé quelque chose. L'Esprit de Dieu, qui vient sur toute personne qui se tourne vers Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu sur David et il ne l'a plus quitté. À la différence de Saül, puisqu'il est dit qu'à un certain moment, quand Saül a continué à désobéir à Dieu, à un certain moment, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Pardon. Par contre, sur David, il est descendu et il ne l'a plus quitté. Pourquoi ? Parce que David cherchait à plaire à Dieu. Le jour où David a été visité par l'Esprit de Dieu, sa vie a complètement changé. Mais nous remarquons dans la Bible, nous n'avons pas le temps de le lire, mais vous pourrez lire, l'histoire de David se lit très facilement, elle compte une cinquantaine de pages. Vous remarquerez avec moi que David, après avoir été choisi, comme nous le disions tout à l'heure, n'est pas devenu roi tout de suite, il est retourné à ses troupeaux. Il gardait des moutons. C'est là qu'on l'a trouvé quand Samuel l'a fait appeler. Il gardait les moutons dans les champs. Et du jour au lendemain, il est reparti vers ses moutons. Il a continué à travailler comme il travaillait jusque-là, jusqu'au moment où Dieu a choisi de le placer sur le trône. Mais nul doute que sa vie a été transformée cependant. Vous savez, on peut garder les moutons, je n'ai jamais gardé de moutons, peut-être vous non plus. Mais on peut faire un travail tout à fait simple et banal, mais de différentes manières, avec une mentalité différente. On peut aller travailler dans un bureau en faisant une tête comme ça. Paraît-il, c'est le lundi matin, cette tête-là, quand on reprend le travail, après un week-end où on a fait tout à fait autre chose, des choses qu'on a peut-être choisi un peu plus que ce qu'on fait dans la semaine. Alors, la tête est grise, le visage est long. Le lundi matin, et puis il se détend un petit peu au fil des jours parce qu'on serait habitué à travailler, et puis le vendredi soir, il est presque rayonnant. Hein. Avec les gens vont au travail en traînant les pieds le lundi matin, mais il rentre en courant le vendredi soir. Bon. Eh bien, je crois que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, lorsqu'une personne a découvert l'espérance qui est en Jésus-Christ, elle n'est pas obligée, cette personne, d'aller au travail avec un visage d'enterrement. Même la vie quotidienne change, parce qu'on a une nouvelle espérance. David est retourné vers ses troupeaux, mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Ses moutons étaient toujours des moutons. les champs étaient toujours des champs. Le climat était toujours le même. Mais il avait en lui une grande conviction et une immense espérance. Il savait qu'un jour, Dieu ferait quelque chose de particulier de lui. Pourquoi ? Parce que c'était un homme qui plaisait à Dieu. Alors, j'aimerais, dans cette deuxième partie de cette méditation, terminer par deux choses qui déjà apparaissent. Nous en verrons d'autres dans les deux mois qui viennent. Mais deux caractéristiques de l'homme selon le cœur de Dieu. La première, elle apparaît de manière très simple dans un épisode que nous n'allons pas lire parce qu'en général, il est bien connu. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath. Oui, ça va ? Même si vous ne l'avez pas relu ces trois dernières années, c'est une histoire qu'on retient facilement. C'est quand même une histoire assez extraordinaire pour qu'on ne l'oublie pas. Je le dis parce que c'est plus simple, nous n'avons pas le temps de la relire. Mais vous savez comment David, peu de temps après avoir été choisi par Dieu, étant reparti voir ses moutons, un jour son père lui a dit, « David, va voir tes frères, tes grands frères, forts et grands et beaux et robustes, qui sont sur le champ de bataille, puisqu'il y avait la guerre à ce moment-là entre Israël et un peuple voisin, les Philistins. Va voir tes frères, va prendre un peu de leurs nouvelles, et va leur porter un petit peu à manger et un petit peu d'extraordinaire, parce que à l'armée, bon, j'ai fait l'armée quand j'étais jeune, j'ai fait une année d'armée, comme c'était la règle en France à l'époque, maintenant c'est fini, et je n'ai pas à me plaindre, je mangeais assez bien, puisque je travaillais en plus en cuisine, dans les cuisines, donc j'étais bien, enfin je ne travaillais pas, je ne faisais pas la cuisine, je faisais les menus, mais j'avais droit à ce titre de manger les bonnes choses. Et alors, cependant, en général, à l'armée, on n'est pas dans un hôtel ou dans un restaurant 4 étoiles. Alors, ces jeunes soldats, les frères de David, étaient à la même enseigne, et certainement, le père a compris qu'à un certain moment, il fallait quand même leur apporter un peu d'extra pour améliorer leur ordinaire, et il a envoyé son fils David, et lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, vous vous rappelez, dans la Bible, il est dit que ses frères l'ont gardé un petit peu de travers. Il a l'air de dire, mais qu'est-ce qu'un petit garçon comme toi, à ton âge, vient faire sur le champ de bataille ? Il vient nous espionner ou quoi ? Et David était venu simplement parce que son père l'avait envoyé. Mais ce qui est important, c'est que quand David est arrivé sur le champ de bataille, et c'est là notre première leçon, première caractéristique de l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui plaît à Dieu, c'est que l'armée d'Israël et son roi Saül étaient dominés, sans combattre, par l'armée d'en face. Ils étaient terrorisés par ce géant Goliath, qui venait les narguer tous les jours, en se moquant d'eux, parce que une règle s'était imposée, les Philistins proposaient que leurs géants combattent contre un soldat d'Israël. Vous savez, on faisait souvent cela à l'époque, et même dans l'histoire du monde, on a fait souvent cela. Pour éviter qu'il y ait trop de morts, on choisissait un soldat de chaque armée, assez fort en général, le champion de chaque armée, et on organisait un duel entre les deux champions, et on disait, celui qui vaincra, son armée sera déclarée vainqueur, et l'autre sera prisonnière ou vaincue, avec tous les désavantages de l'armée vaincue. Mais le problème, c'est que Goliath était un géant, et aucun soldat en Israël, ni même le grand roi, grand par la taille, peut-être pas par le reste, mais par la taille, Saül, personne ne voulait se mesurer à lui. Et vous le savez, David a regardé les choses différemment. Nul doute que David n'était pas très grand. Il faisait peut-être 1m60, 1m65, peut-être même moins. Mais il y avait une différence entre David et tous les autres soldats d'Israël, et même le roi Saül, c'est que David avait reçu l'Esprit de Dieu, et David avait foi en Dieu. Il savait que le géant Goliath était peut-être 2 fois plus grand que lui, 10 fois plus fort physiquement, beaucoup plus habile dans le maniement des armes. On le voit dans le récit d'ailleurs après. Mais David avait une idée toute simple. Et il le raconte dans cet épisode de Goliath, au chapitre 17. Il dit, quand moi, je garde mes troupeaux, si un animal dangereux comme un ours ou un lion veut attaquer une de mes brebis, je vais et je me bats. Parce que Dieu me donne la force, parce que Dieu me garde, me protège, parce que je suis son enfant, Et alors, si Dieu m'a donné la victoire sur l'ours ou le lion, pourquoi pas sur un géant ? David a vu toute cette histoire comme une histoire de foi en Dieu. Israël est le peuple de Dieu, a dit David. Et si Israël est le peuple de Dieu, Dieu va s'occuper de lui et lui donner la victoire. Encore faut-il qu'un homme puisse se présenter devant Goliath et remporter la victoire. Et c'est cette foi que David avait en Dieu qui a été le premier secret de sa victoire. Quand David s'est présenté devant Goliath, il avait trois fois rien comme arme. Il avait, vous savez, une fronde avec laquelle on lance des cailloux. Ce n'est pas une arme de guerre très redoutable. Mais si on sait viser, ça peut être efficace. Et c'est ce que David a fait parce qu'il a mis toute sa confiance en Dieu. Nul doute, il a prié Dieu avant d'affronter Goliath. Et ce qui s'est passé, c'est que quand David a vu le peuple de Dieu humilié de la sorte, il s'est dit, ce n'est pas la place du peuple de Dieu, ce n'est pas son rôle d'être humilié. Dieu est puissant, Dieu est grand, je suis l'enfant de Dieu. Et toute situation difficile dans laquelle je me trouve, Dieu peut m'en donner la solution et la victoire. C'est un peu un résumé de la vie chrétienne, cela. Maintenant, la deuxième caractéristique, et je terminerai par cela, de l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que l'homme selon le cœur de Dieu est quelqu'un, ou la femme selon le cœur de Dieu, bien sûr, l'homme qui plaît, la femme qui plaît à Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans la pleine conscience de la présence de Dieu. David a vécu toute sa vie dans la pleine conscience du fait qu'il vivait sous les yeux de Dieu. Que Dieu était présent, que Dieu était vivant. D'ailleurs, il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, je crois, le chapitre qui parle de la foi, au chapitre 11, verset... vers chapitre 11, verset 6, voilà. Il est dit, « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. » Je lis toujours dans ma Bible, parole de vie. « Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Pour plaire à Dieu, il faut croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe, ça veut dire être conscient du fait que Dieu est là. Je me réveille le matin et je sais que Dieu est là. Quand je me couche le soir, je sais que Dieu est là. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car tu es là, Seigneur. Tu me gardes, tu me protèges. » Et c'est cela le deuxième secret de l'homme qui plaît à Dieu, c'est qu'il sait que toute sa vie, il la vit dans la présence de Dieu. Dieu est là, Dieu le connaît, Dieu le voit, Dieu l'entend. Parce que Dieu le voit et qu'il sait que Dieu le voit, il va vivre dans le respect de Dieu, le respect de ce que Dieu demande. Dans la Bible, nous voyons souvent, et je ne lis pas ces textes parce qu'ils seraient trop longs, mais dans les différents chapitres des deux livres de Samuel qui résument la vie de David, qui racontent la vie de David, nous voyons qu'à plusieurs reprises, il est dit, David interrogea l'Éternel, David consulta l'Éternel. Cela veut dire que devant certaines décisions à prendre, devant toutes ces décisions, David voulait en parler avec Dieu et savoir, avoir la conviction que ce qu'il allait faire allait plaire à Dieu. Et à chaque fois, il est dit, l'Éternel répondit à David. Alors que quand il est dit un jour, un des rares jours où cela a été l'idée de Saül, Saül consulta Dieu, Saül demanda à Dieu ce qu'il en pensait, il est dit « Dieu ne répondit pas ». Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que Dieu fait des différences entre les hommes et qu'il privilégie les uns et met les autres de côté, mais c'est parce que Saül ne priait jamais Dieu. Saül ne cherchait jamais à savoir si ce qu'il allait faire était la volonté de Dieu et plaisait à Dieu. Alors que David, chaque fois qu'il consulte Dieu, Dieu lui répond et lui dit « C'est bien, ce que tu veux faire, fais-le, cela me plaît. » Le secret, les premiers secrets, les premières caractéristiques de l'homme selon le cœur de Dieu, de l'homme ou la femme qui veut plaire à Dieu, c'est premièrement d'avoir confiance en Dieu, de croire en lui, de savoir, et ensuite d'être pleinement conscient que Dieu est réel, que Dieu existe, que Dieu nous voit, que Dieu nous aime, et qu'il veut nous aider dans nos difficultés, comme dans notre vie quotidienne. Il veut que nous soyons conscients de sa présence et que nous le respections parce qu'il nous voit, parce qu'il nous connaît. Il a fixé, bien sûr, des règles, et il aime que nous suivions ces règles. Mais comme l'enfant qui veut être bon et vivre une bonne vie va chercher à obéir à ses parents, parce qu'il sait que ses parents connaissent mieux les choses que lui, et qu'ils savent pourquoi ils lui donnent parfois des ordres, l'enfant de Dieu va chercher à plaire à Dieu en obéissant à sa parole, parce qu'il sait que Dieu est là, et que Dieu sera heureux de le voir marcher dans ses voies. Alors que Dieu nous aide à être des hommes ou des femmes, selon son cœur, des hommes ou des femmes qui lui plaisent. Et la prochaine fois, nous continuerons à voir d'autres caractéristiques de ce qu'est un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.